L'invité du jour.
Notre invité de jour aujourd'hui, Nicolas Brienne, bonjour.
Bonjour.
Premier secrétaire donc fédéral PS pour le département de l'Allier, également élu d'opposition au sein du conseil municipal. On va parler bien sûr tout de suite de l'actu chaude d'hier soir. Vous avez quitté avec le groupe PS et également les Verts et le groupe Front de Gauche. Vous avez quitté hier le conseil municipal. On vous a pris la parole. Concrètement, c'est ça, c'est ce que vous dénoncez que ce matin ?
C'est du jamais vu. Nous, on a décidé de claquer la porte parce qu'on proteste contre une décision qui est terrible, qui est la décision de fermer une école, de fermer plusieurs écoles. Et face à cela, nous avons vu du mépris, nous avons vu le refus de donner la parole à l'opposition. C'est bien normal, notre parole, elle dérange. Nous dénonçons la fermeture de l'école Maurice Carême, nous dénonçons la fermeture de l'école Elsa Triolet et nous faisons l'écho d'inquiétude sur l'école Lamartine. Alors évidemment cette parole elle dérange et je comprends parfaitement pourquoi monsieur Daniel Duglieri tente de nous faire taire. Eh bien ça ne marchera pas, nous ne nous tairons pas et nous continuerons à défendre les parents d'élèves et à empêcher les fermetures d'école.
Quand il dit j'applique le règlement, tout simplement, il y avait déjà eu une prise de parole plus longue que ce qui était autorisé même auparavant.
Écoutez, je crois que les enfants m'ont lu sonné, les parents d'élèves m'ont lu sonné, méritent un peu mieux que l'application du règlement intérieur ou des petites chicanes technocratiques. Je crois qu'on a besoin d'un vrai débat à Montluçon sur ce que ça doit, sur ce que doit être le service public. Je rappelle quelque chose de très simple. Monsieur Duglieri est le seul maire de tout l'arrondissement. Des 106 communes du bassin montluçonnais à fermer des écoles. Je pense que ça mérite débat et que les parents d'élèves montluçonnais avaient, via nos prises de parole, des questions à lui poser.
Mais dans ces cas-là, pourquoi ne pas prendre rendez-vous avec lui dans son bureau et discuter tranquillement et respecter les règles, entre guillemets, du conseil municipal ?
Écoutez, nous avons fait ce travail de dialogue, de concertation en lien avec les parents d'élèves. Nous avions des propositions extrêmement concrètes à avancer. Depuis plusieurs mois, nous demandons à ce qu'il y ait un moratoire sur les fermetures d'écoles. On pense qu'il n'y a pas d'économie à faire sur le dos des enfants et là-dessus, on se heurte à un mur face à la mairie. Donc à un moment, on dit stop au simulacre de démocratie. La démocratie, c'est le dialogue, ce n'est pas sans arrêt le coup de force.
Par rapport à l'école Elsa Triolet, donc puisque c'est ça qui a un petit peu mis le feu aux poudres, aujourd'hui on nous annonce des effectifs en baisse, on nous annonce aussi l'arrivée, il faut le dire, en remplacement de la section hôtelière. Est-ce que finalement il n'y a pas quelque chose de crédible là-dedans?
L'arrivée de la section hôtelière est une excellente nouvelle. Et ça, il faut le dire, il faut le répéter. C'était attendu, c'est un des premiers employeurs, l'hôtellerie est un des premiers employeurs de jeunes sur le bassin montluçonnais. Le départ de la section hôtelière, il y a de cela 2 ans, était une dramatique annonce. Là, on a le retour de la section hôtelière, c'est une excellente nouvelle. Moi, je dis simplement, on n'a pas besoin de déshabiller Paul pour habiller Jacques. On n'a pas besoin de fermer une école publique pour ouvrir une section hôtelière.
Même s'il y a 30 élèves dans l'école ?
Il y a plusieurs bâtiments qui existent et qui sont inoccupés dans le parc immobilier de la mairie. On n'a pas besoin de fermer une école publique. Ah. Et le nombre d'élèves, je veux dire, on peut chicaner sur les chiffres. Seulement moi, à un moment, je pense que le service public, c'est pas juste les chiffres. Ce sont les êtres humains qu'il y a en face. Les parents d'élèves ne seraient pas mobilisés comme cela si cette école était totalement inutile. Et encore une fois, je suis désolé, la politique, c'est pas une affaire de chiffres. L'intérêt supérieur de l'enfant, quand on parle d'éducation, on doit y penser et l'avoir en tête tous les jours. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas dans ce cas.
J'entends bien, mais quand on a 31 élèves dans une école et qu'il y a une autre école à côté à 200 mètres, est-ce que franchement on ne peut pas faire quelques économies quand même ?
Écoutez, les économies ne doivent pas être faites sur le dos des enfants. On l'a déjà dit plusieurs fois, il y a plusieurs façons de redynamiser cette école. Et encore une fois, fermer l'école Elsa Triolet, c'est mettre gravement en danger l'école Lamartine, qui est l'école de référence juste derrière. Je crois vraiment que c'est la pire des façons de procéder. Et encore une fois, tous les maires de l'arrondissement de Montluçon sont confrontés à des baisses de dotation, sont confrontés à la nécessité de faire des économies. Aucun d'entre eux n'a décidé de fermer une seule école. Là, je crois qu'on a un vrai débat à mener et il est totalement anormal qu'à Montluçon, une grande ville comme Montluçon, on ferme de la sorte, on sabre le service public de l'éducation nationale.
Vous avez des craintes sur d'autres établissements ?
Oui, je viens de les exprimer. L'école Lamartine, nous avons de vraies craintes dessus. Et de manière générale, sur toutes les écoles montluçonnaises. Je rappelle qu'il y a au dernier conseil municipal, Daniel Duglieri nous disait les yeux dans les yeux, il n'y aura pas de fermeture d'école.
Et on s'aperçoit de la rentrée prochaine.
De la rentrée prochaine. Et on s'aperçoit qu'il a menti. Suite à la fermeture de l'école Maurice Carême, il nous avait affirmé les yeux dans les yeux qu'il n'y aurait plus d'autres fermetures d'école. Et on s'aperçoit qu'il y a à nouveau l'école Elsa Triolet. Donc, quand est-ce que ça va s'arrêter? Donc, nous, on tire la sonnette d'alarme, on dit stop, ça suffit les fermetures d'école à l'aveugle.
Pour en revenir et pour boucler sur l'incident d'hier, est-ce que vous pensez pas que ça peut être aussi mal perçu le fait de quitter finalement le conseil municipal et de pas débattre des 42 autres questions qui étaient à l'ordre du jour?
Écoutez, on peut en débattre quand on veut des choix qui sont faits dans le conseil municipal. On le fait régulièrement, on le fait partout où c'est possible, dans les médias, sur les marchés, au conseil municipal. Seulement hier soir, encore une fois, il était important de marquer le coup et de montrer qu'on ne rigole pas avec le service public de l'éducation nationale. S'il y a une chose pour laquelle on doit être normalement tous unis, ce sont les enfants, c'est la jeunesse, c'est l'avenir de ce bassin montluçonnais. Et hier soir, la façon de couper les ponts, la façon de totalement empêcher le dialogue, n'allait absolument pas dans ce sens.
Un petit mot sur la décision annoncée il y a quelques semaines du député dont vous êtes le suppléant, de Bernard Lesterlin, de se mettre en retrait du Parti Socialiste à l'Assemblée Nationale. C'est une décision que vous avez compris?
Oui, tout à fait. Enfin, Bernard Lesterlin regrettait notamment l'utilisation du 49.3, donc notamment à l'Assemblée nationale sur la loi travail. Je comprends que ça puisse choquer. Je comprends que on puisse avoir des opinions divergentes sur l'utilisation du 49.3. Les socialistes de l'Allier d'ailleurs se sont exprimés sur le sujet et ont dit que c'était clairement pas la meilleure des solutions. Mmh. On revient à nos histoires de dialogue. Mmh. En démocratie, le dialogue est toujours important. Et tant qu'on n'a pas évacué toutes les options sur la table, il faut toujours éviter d'avoir ce genre d'outil un petit peu fort.
Ça n'empêche pas les manifestants de venir manifester à la porte du PS ici à Montluçon, hein.
Oui, alors il y a les manifestations et puis derrière il y a du dialogue, il y a du respect. Un mouvement social, il est fait pour exister. Je rappelle que à Montluçon, on a une histoire syndicale qui est riche, et il faut la respecter et a priori le droit de grève existe dans ce pays, il a le droit de s'exprimer. Mais de manière respectueuse et encadrée, et j'insiste là-dessus.
Ça fait pas un peu long quand même maintenant là ce mouvement là?
Écoutez, pour moi un mouvement, il est jamais long. Un mouvement social, il a le droit de s'exprimer. Derrière, il faut tout simplement que les choses soient faites de manière respectueuse.
Dans un an, dans le calendrier, il y a les élections législatives. Est-ce que vous y pensez déjà? Bernard Lesterlin avait dit sur cette antenne notamment qu'il vous soutiendrait évidemment s'il y avait acte de candidature.
Moi, je trouve totalement indécent de penser aux élections législatives aujourd'hui. On est à un an de l'échéance. Techniquement, le député n'a fait que 80% de son mandat. Il lui reste 20% encore à faire. Et quand j'entends les annonces de candidature des uns et des autres, je me dis franchement, ça donne une image déplorable du personnel politique. Oui. On a l'impression de voir des carriéristes qui se bousculent pour collectionner les mandats comme on collectionne les médailles. Et je pense qu'aujourd'hui, on a d'autres sujets, notamment le chômage des jeunes, notamment la défense des services publics.
Vous visez notamment la candidature déjà annoncée de Daniel Duglieri quand vous dites ça?
Je crois qu'il y a vraiment un très mauvais symbole qui a été envoyé par cette candidature. Daniel Duglieri a annoncé cette candidature le jour où il annonçait la fermeture de l'école Elsa Triolet. Et ça, je crois au symbole en politique, et je crois que ça veut dire beaucoup sur ce qu'il prépare pour ce bassin montluçonnais. Il est évident qu'il trouvera toujours sur sa route les socialistes et la gauche pour empêcher la casse des services publics.
D'accord, donc pour l'instant vous n'êtes pas encore déclaré candidat, mais est-ce que vous y pensez sérieusement?
Moi, j'exclus rien. J'ai toujours.
Est-ce que les matins, en vous rasant, pour prendre une formule célèbre, vous y pensez, quoi? Voilà, sérieusement, c'est ça, quoi, la question.
Je suis pas Nicolas Sarkozy. Obnubilé par le pouvoir personnel. Encore une fois, les choses soient très claires.
Oui, mais ça se prépare. On sait que ça se prépare. Et est-ce que vous cherchez aujourd'hui d'ores et déjà des alliances, un petit peu, par savoir qui sera derrière vous, un petit peu, non?
Écoutez, je vous réponds très franchement.
Oui.
Moi, je suis prêt. Pour une raison simple, je suis député suppléant depuis 4 ans. Depuis 4 ans, mon rôle, c'est de me préparer pour le cas où Bernard Lesterlin ait un empêchement. Donc, si vous me demandez si je suis prêt, je suis prêt. Après, la question, c'est que c'est pas juste une question personnelle.
D'accord.
Il faut que derrière, il y ait une envie. J'entends de ci, de là, qu'un comité de soutien ou un appel à candidature sera en train de se mettre en place. J'étudierai tout cela à la rentrée et on prendra une décision à ce moment-là.
D'accord, il y a donc une décision collective prise par le PS, c'est ça, dans le département ou...
Je pense qu'il faut un moment penser à dépasser les étiquettes. Quand on est député de tout un bassin, de toute une circonscription. On n'est pas le député des socialistes ou le député des conservateurs, on est le député de toute une population. On est le représentant d'un territoire à Paris. Donc si je dois prendre une décision, elle se fera de manière très collective et la plus large possible.
Merci Nicolas Brigani, à très bientôt.
Je vous remercie. L'invité du jour.